continue, on poursuit cette fois, on s'en va en chronique. Et ça, mesdames et messieurs, c'est le son du doigt sur le bobo!
Ouais!
Le doigt sur le bobo avec notre chroniqueur Éric Lantier. Salut Éric, comment vas-tu?
Eh, hey, ça va très bien, il fait tellement beau par chez nous, c'est très agréable.
C'est le fun, hein? Fait du bien, on en profite. Éric, tu veux nous parler, mon ami, du Vatican, le Vatican et sa théorie, la théorie face aux gens, des gens. Qu'est-ce que tu veux nous, de quoi tu veux parler exactement?
Ben, c'est parce que le Vatican a déposé, si on veut, un document de réflexion pour expliquer sa position face à la théorie du genre et, ça s'appelle Congrégation pour l'éducation catholique et ça s'adresse particulièrement aux institutions d'enseignement qui sont attachées, par exemple, à la foi catholique parce que les écoles catholiques se disent qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la question de la théorie du genre, hein, parce que on est en train de voir beaucoup de gens qui font la promotion de mentalité trans, par exemple, ou de dire, ben non, il n'y a plus d'hommes ou de femmes. Maintenant, on a des êtres humains. Et à ce moment-là, l'Église catholique est mal à l'aise avec ça. Il s'est dit, on va créer un document. Comme ça, les écoles vont pouvoir se baser là-dessus.
Ouais.
Et ça s'intitule « Il créa hommes et femmes pour un chemin de dialogue sur la question du genre dans l'éducation ». Et il y a trois blocs. Il y a « Écouter, raisonner et proposer ». Et moi, je l'ai lu au complet, c'est 26 pages, c'est très respectueux, même si, par exemple, des gens auraient souhaité que l'Église catholique suive le courant, puis disent « non, non, on suit le courant, pourquoi vous appuyez pas ça, la théorie du genre? » Mais eux, ils expliquent pourquoi ils appuient pas ça. Bon, dans un premier temps, ils vont dire que toute la question de la théorie du genre qui fait que on n'est pas nécessairement un homme ou une femme, ça dépend comment on se sent. Et ça fait référence à la subjectivité personnelle qui est en opposition avec notre identité originelle. Parce qu'avant de naître, on ne savait pas qu'on allait être un petit gars ou une petite fille. Et puis, donc, dans nos chromosomes, dans notre ADN, on est genré. Et la théorie du genre dit non, il n'y a plus ni homme ni femme. Et c'est là que ça pose un problème parce que ça crée un conflit chez certaines personnes parce qu'ils se disent, ben c'est quoi ma véritable identité? Est-ce que je suis un homme ou une femme? Et ça dépend pas des organes génitaux à ce moment-là. Ils vont soulever plusieurs points, par exemple, comme quoi le problème avec cette théorie-là, c'est que ça nie la différence, donc les hommes et les femmes.
Ouais.
Ça nie aussi la réciprocité naturelle qu'il y a entre un homme et une femme à cause de leur différence. Et l'impact que ça a, c'est que ça a un impact sur la base anthropologique de la famille. En d'autres mots, s'il n'y a plus ni homme ni femme, bien à ce moment-là, c'est quoi le rôle du père, c'est quoi le rôle de la mère? Et à ce moment-là, on devient des parents.
Ouais.
Et c'est là que il y a une déconstruction d'une base fondamentale qui, depuis le début de l'humanité, depuis ce qu'on connaît l'humanité, eh bien, on a toujours eu des bases familiales où est-ce que il y avait un père, il y avait une mère, et puis ils procréaient, ça faisait en sorte qu'il y avait des enfants dans plusieurs cas. Il y a toujours eu des cas de stérilité, mais règle générale des enfants, c'est pour ça qu'on est là. Et à la base, c'est parce qu'il y avait un père et il y avait une mère. Mais si on déconstruit ça parce qu'on se sent pas comme ça, on est un homme, on se sent pas père, ou on est une femme et on se sent pas mère si on a des enfants, mais là, à ce moment-là, l'Église catholique a dit, bon, ben, on est en train de détruire les repères qu'on avait et qui sont fondamentaux. Et sais-tu que je trouve intéressant, dans le paragraphe 43, parce qu'ils ont numéroté les paragraphes, ils ont soulevé quelque chose que, dit comme ça, je trouvais que ça avait du bon sens. J'aimerais ça savoir ce que t'en penses, toi, Jocelyn.
Ouais.
Ça dit, là, au paragraphe 43, ceci. Il est toujours plus évident que le déclin de la culture du mariage est associé à une augmentation de la pauvreté et une série de nombreux autres problèmes sociaux qui frappent de façon disproportionnée les femmes, les enfants, les plus âgés. Et ce sont toujours eux qui souffrent le plus dans cette crise. En d'autres mots, lorsque il y a un couple qui est marié, il y a plus d'avantages fiscaux que lorsque les couples sont séparés puis qu'il y a la garde partagée. Alors, eux autres, ce qu'ils disent, c'est que si on pousse vers le fait qu'il n'y a plus d'hommes, de femmes, qu'il n'y a plus ni père ni mère, mais ça fragilise la thèse familiale parce que chacun vit en fonction de sa subjectivité propre. Et l'effet de tout ça, c'est que il va y avoir des femmes monoparentales qui vont subir les conséquences dans bien des cas, parce que c'est souvent eux qui sont les victimes, c'est eux qui gardent les enfants. Et à ce moment-là, ça crée un appauvrissement. Ça, c'est comme ça qu'ils voient ça, l'Église catholique. Qu'est-ce que t'en penses, Benoît? Jocelyn?
Ouais, tu sais, moi, j'ai les vieilles valeurs familiaux, là, familiales où le père, puis je suis encore comme ça, imagine-toi, avec l'instruction où le père va travailler à la soirée de son fond pour subvenir aux besoins de la famille, et la femme qui est la chef, la bosse de la maison, puis j'ai encore ces valeurs-là en dedans de moi, qui sont innées en dedans de moi. C'est dur pour moi de d'évaluer ça, là. mais on le sait, l'humanité évolue, on avance et on change avec le temps. Bon, mais moi j'étais un peu vieux jeu là de ce niveau-là, de ce côté-là, ouais. Là.
Moi aussi, je te dirais que je pense de ton côté, mais ce que j'aime dans ce document-là, puis j'encourage aux auditeurs de le lire, parce que même s'il y a un malaise et un désaccord, même s'il y a des craintes pour le futur, il reste que tout est présenté avec énormément de respect. Mm-hmm. Et aussi, il y a un appel à la compréhension, à l'écoute, à essayer de comprendre qu'est-ce qui amène, par exemple, un homme à se considérer une femme ou à ne pas accepter pleinement son identité de femme si c'est une femme ou d'homme si c'est un homme. Ouais. Donc, de chercher à comprendre l'histoire, l'origine et...
Est-ce que ça arrive dans les animaux? Ça, c'est une question que je me suis posée des fois. Tu t'es jamais posé la question, Éric, à savoir... l'homosexualité, exemple, chez les animaux, ça existe-tu? Puis oui, je pense hein, que oui. Mm-hmm. Il y a des j'ai vu des chiens, en tout cas, qui faisaient ça entre mâles. Mm-hmm. Mais bon, ça semble être un problème plus dans l'être humain. Ben, je dis un problème, pas un problème, mais une différence. Mm-hmm. Plus chez l'être humain que chez les autres espèces animales.
Oui, parce que chez les animaux, c'est par besoin, si
l'instinct.
On veut. Par besoin
l'instinct
ponctuel,
fort.
Oui, c'est ça. Tandis que nous, ça amène un mode de vie.
Ouais.
Et ça amène aussi une influence, parce que lorsque c'est accepté, à ce moment-là, il y a des gens qui sont plus à l'aise de s'afficher. On le voit avec la marche pour la fierté. On le voit avec ce qu'on appelle les sorties de placard ou communément appelé les coming out. Ouais. Donc, il y a un effet d'entraînement qui est là. Mais par contre, chez les animaux, on voit pas cet effet d'entraînement-là. Il y a pas ce mimétisme-là qui s'installe. Ça, c'est la grande différence. Mais aussi, et c'est ça que j'aime dans l'approche de ce document, c'est de chercher à comprendre, chercher à connaître l'histoire, chercher d'où ça vient. Ça, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce qu'il y a des éléments dans le parcours qui amènent une personne à se remettre en question?
Ouais.
Et je pense qu'en tant que société, d'avoir un dialogue sur ces sujets-là, dans le respect. Je trouve ça pertinent. Et à la fois, l'Église catholique véhicule sa vision, mais à la fois, il y a comme une ouverture pour écouter. Écouter l'autre, puis écouter le pourquoi, écouter ce qui se passe, et ne pas juger, ne pas pointer du doigt, d'être respectueux. Et ça, j'aime ça.
Ouais. On me dit ici, on écrit en même temps, et on me dit que chez les singes, apparemment, que chez les singes, l'homosexualité est très présente, et par contre, on me dit aussi que les loups, exemple, les loups restent fidèles jusqu'à la mort, eux, sont. Et bon, écoute, c'est l'intelligence peut-être qui fait en sorte qu'à un moment donné, on devient humain et non plus homme-femme. C'est à lire ton article, c'est à voir.
Oui, bien, ça vaut la peine parce que souvent, on va opter pour une position, opter pour un angle ou une vision du monde parce qu'il y a un courant de pensée qui influence. Puis quand on s'arrête pour lire, puis on se dit, ah, il y a des éléments que j'avais pas considérés, il y a des éléments que j'avais pas vus, que j'avais pas, qui attirent mon attention. Et à ce moment-là, bien, c'est là que il y a une opinion qui se crée, mais qui est basée sur des raisonnements et basée justement sur des points de vue différents qu'on a entendus. Parce que lorsqu'on entend seulement un point de vue, c'est difficile d'avoir
un jugement
éclairé.
Oui. Hein, ouais. On remarque aussi de plus en plus, puis ça, écoute, moi j'aime ça, là, c'est de voir les couples homosexuels, les gays, qui vont adopter des enfants. Il y a une espèce de pratique, c'est d'aller faire des adoptions dans des pays où les enfants, leur sécurité est en danger, ou... Et ça, j'aime bien ça. Au lieu de faire d'autres enfants, d'aller adopter ceux-là qui méritent d'avoir des parents. Mais bon, encore là.
Oui, ben dans le sens que, tu sais, quand il y a un geste qu'on appelle d'altruisme, ça veut dire penser au bien des autres, bien à ce moment-là, c'est toujours louable de voir de ce que le bien s'exerce. Si le geste est pour le bien de l'autre, c'est toujours louable. Puis peut-être un dernier point que j'aimerais soulever, c'est au paragraphe 21, ça parle de l'utopie du neutre. Parce que lorsque on adhère à la théorie du genre, parce que plutôt que de dire « j'ai un sexe d'origine », je suis quelqu'un, par exemple, qui va s'identifier en fonction de mes humeurs, de mon élan, de mon contexte, un genre ou un autre. Donc, ça amène, si on veut, chez la personne, un genre de neutralité. Et ce qu'on dit ici, c'est que lorsque on vit dans cette supposément neutralité, eh bien, c'est comme si tout était égal et qu'à ce moment-là, on n'a plus de repères. Et ça amène les gens, en bout de ligne, si on va trop loin dans cette direction-là, à vivre comme si n'importe quoi pouvait être permis parce que je vis dans une supposée liberté authentique. Et on en parle aussi au paragraphe 22. Donc, en disant, plus que je me sens comme ça, je dois écouter comment je me sens, donc je dois me laisser aller à comment je me sens.
Ouais.
C'est vrai qu'on doit écouter ce qui se passe en interne.
Éric, je suis obligé de t'interrompre, mon ami.
Oui.
Parce qu'on est vraiment en train de déborder. Il est dans l'autre émission, le monsieur est en stand-by. Attends. Éric, écoute, j'aimerais ça t'inviter en studio la semaine prochaine. Est-ce possible pour toi de venir en studio avec nos chroniqueurs? Parce que c'est la dernière de la saison, hein, la semaine prochaine. Dernière semaine de la saison.
Mais le jeudi 20, est-ce que ça serait bon, ça?
Jeudi le 20, ben ouais, certain, pourquoi pas, bien sûr.
Bon, on va opter pour le jeudi 20.
OK. Fait qu'on essaie de rassembler tout le monde le jeudi. Ben, en fait, le jeudi, ça va être vraiment la dernière émission de la saison. Fait que... On essaie de rassembler l'équipe au complet la semaine prochaine, jeudi le 20. Hey, ça serait le fun, tout le monde en studio. Puis, hein? Mm-hmm. Merci beaucoup, Éric.
Au plaisir.
À la semaine prochaine, mon ami.
Parfait, au revoir.
All right, bye-bye. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà le mot de la fin.